J'étais son secrétaire dans son commerce de vin à Courtétel. Et puis, c'est un très bon patron, très gentil, très énergique. Et puis, le 25 mars 1964, au matin, j'entre dans le bureau, il y a plein de gendarmes, Marcel me présente, Bernard, mon employé, un monsieur vient devant moi, Gaillot, inspecteur de la police fédérale, bonjour monsieur, vous voulez bien me suivre? Bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai suivi ce monsieur, un policier, on m'a amené au poste à Courtétel, puis ensuite au poste à Kourou, où j'habitais. Là, on m'a interrogé depuis 8 h le matin à 8 h le soir. Marcel Boyat a été interrogé dans son bureau, José a été interrogé à Delémont. Et le soir, ils m'ont libéré. Mais dans l'après-midi, toutes les demi-heures, le policier de la police fédérale faisait un téléphone au juge Tellet, qui faisait l'enquête sur le FG, pour donner les résultats de notre interrogatoire. Dans l'après-midi, à un moment donné, je dis à ce monsieur, mais vous voulez me dire que le FLJ, c'est Marcel Boyat? Vous ne tarderez pas à le savoir.
Marcel Boyat, c'était le FLJ avec Jean-Marie Auzet et Pierre Deria. Vous n'étiez pas membre hein, du FLJ, vous étiez l'employé de Marcel Boyat dans son commerce de vin. Est-ce que vous doutiez, avant qu'il soit arrêté, qu'il pouvait être impliqué dans ces attentats?
J'étais au cœur du FLJ, mais je n'y ai vu que du feu, comme avait écrit Jacques Ourrier dans Le Quotidien. Jamais Marcel Boyat n'a voulu m'impliquer dans ce mouvement. Par contre, on en parlait beaucoup. On en parlait pratiquement tous les jours. Moi qui étais un bouillant, un jeune bouillant, là, ça me passionnait. Ces actions de FLJ me passionnaient parce que leurs actions, c'était quand même toujours pour répondre aux provocations bernoises. C'était surtout pour combattre aussi ce funeste projet de place d'armes aux Franches-Montagnes. C'est d'ailleurs ça qui a provoqué la naissance du FLJ. Cette histoire, elle est scandaleuse. C'est dans les années 50, c'est un colonel qui allait visiter ses fermiers pour leur acheter leur domaine. Ils avaient un projet d'achat de passer 800 hectares pour faire une place d'armes. Tout ça, ça se faisait en douce. Quand les communes des Franches-Montagnes ont appris cette histoire terrible, ils se sont organisés et ils ont demandé l'aide du gouvernement bernois. Et le gouvernement bernois, ici j'ai une citation du président du gouvernement bernois, M. Gaffner, c'était en 1956, qui disait aux gens, aux communes des Franches-Montagnes, vous défendez votre terre, c'est la vôtre. Je vous félicite pour la façon dont vous avez défendu votre coin de pays. Votre crainte de voir une place d'armes, une fois installée, s'étend ultérieurement, je la partage.
Et puis, bah, ces terrains, en définitive, avaient été vendus au département militaire fédéral pour ce projet de créer une place d'armes aux Franches-Montagnes. Mais si on en revient à vous et au FLJ, quand vous avez vu les gendarmes arriver chez Marcel Boyat à son commerce et que vous avez été arrêté, vous êtes tombé de l'armoire?
Je voudrais terminer quand même l'affaire de la place d'armes. Donc en 56, l'armée voulait acheter ces terrains. Le gouvernement bernois a dit, on va vous aider, vous, communes des Franches-Montagnes. Nous, on va les acheter, ces terrains, pour empêcher l'armée d'y implanter une place d'armes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Grand Conseil bernois a voté les crédits pour acheter ces domaines et ils sont devenus propriétaires de ces domaines. Voilà, les communes des Franches-Montagnes ont dit merci au gouvernement bernois. Mais il s'est passé un acte de haute trahison en 62. Quand le gouvernement bernois a revendu ses domaines à la Confédération, et la Confédération, elle a dit, eh bien maintenant, nous, on va la faire, cette place d'armes. Ça a déclenché le FLJ, et puis c'est les actes de violence qui ont commencé.
Quand vous avez été arrêté avec Marcel Boyat, on imagine que ça a été vraiment une immense surprise pour vous de savoir que votre patron pouvait être impliqué dans ces attentats.
Ben oui, évidemment. Évidemment, c'était une surprise, hein. Disons, parce que j'ai rien vu venir, j'étais complètement naïf, mais il faut dire, il a bien joué le jeu, hein. Il était toujours à son travail le matin, on travaillait ensemble toute la journée. Ben, si, la nuit, j'étais pas avec lui, hein. Alors, voilà.
J'aimerais qu'on évoque aussi peut-être un autre moment important, hein, toujours concernant Marcel Boyat. C'est son évasion en 67 du pénitencier de Crête-Longue dans le Valais. ça, c'est une opération clandestine dans laquelle vous étiez impliqué. Comment ça s'est passé, cette évasion de Marcel Boyat? Il est sorti tout seul du pénitencier de Crête-Longue?
Oui. J'allais lui rendre visite, en tout cas une fois par mois. Et puis, il me disait toujours, de toute façon, je veux partir. Et j'ai passé le réveillon de Noël 66 au pénitencier avec lui, dans la famille du directeur. C'était le cuisinier du directeur. Et puis là, d'ailleurs, le directeur m'avait dit, il me dit toujours qu'il veut partir, mais il est bien ici. Et puis, bon, Marcel, il a dit, non, je vais partir. Alors, avec Lucien Meyrin, industriel à Moudon, eh bien, on a organisé son évasion, qui n'était pas très difficile. Il avait le régime de semi-liberté. Chaque fois qu'on allait dans le Valais, on allait le chercher, on faisait une tournée des bistrots. Puis on avait un quartier général dans un restaurant de Réchy, pas loin du pénitencier.
Alors c'était quoi justement le plan pour le faire évader?
Eh bien le plan, on a fixé la date, moi j'avais, on n'était pas beaucoup à savoir qui voulait s'évader, on était 3 personnes, c'est tout. Hein. Ma mission c'était de déposer ses habits civils au restaurant de Réchy. Lui, Marcel, venait un soir à 11h, seul à travers les vignes, dans ce restaurant. Là, l'attendait l'architecte de Lucien Meyrat avec sa vieille Mercedes. Et il l'a embarqué et ils sont partis. Ses habits de tôlard, il les a achetés dans le Rhône à Ride et ils sont montés au Grand Saint-Bernard. À la douane, la Mercedes de l'architecte tombe en panne. Il dit au douanier, c'est totalement bête, il y a toujours le démarreur qui est foutu, on est obligé de la pousser. Et c'est les douaniers qui ont poussé sa voiture pour passer la douane. Donc, qui c'est qu'a évadé Marcel Boyat? C'est les douaniers.
Vous étiez dans ce plan, évidemment, au courant. Très peu de personnes étaient impliquées. Vous avez eu ensuite des ennuis avec la police après cette évasion de Marcel Boyat?
Non, moi, je n'ai eu aucun ennui. Rien. Lucien Meyrat, je crois qu'il a été impliqué parce qu'ils ont trouvé plus tard que c'était lui le commanditaire de cette opération. Puis je crois qu'il a été un peu interrogé par la police, mais je crois qu'il n'y a pas eu le... C'est pas, on n'a pas fait un crime, hein. On a fait une œuvre de bienfaisance.
Mais ça veut dire finalement que cette opération, elle était bien montée et bien étanche, hermétique, si vous n'avez pas été embêté.
Absolument, oui, c'était totalement discret. Non, je vous l'ai dit, on était 3 personnes qu'on savait qui voulaient s'évader, pas plus.
Et quand vous avez appris que son évasion à Marcel Boyat avait réussi, vous avez réagi comment?
Ah ben moi, moi je le savais à l'avance, ma réaction elle était... Non, j'ai bien réagi quand j'ai su qu'il était en Espagne, voilà, parce qu'il est parti à 11h le soir, mais ils ont découvert son absence à 8h le matin seulement. Donc, il était déjà à la frontière espagnole. Tout était réglé. On était contents.
Oui, parce que finalement, cette opération, elle aurait pu aussi échouer. Mais vous étiez soulagé d'apprendre que ça avait marché.
Ah oui, non, soulagé. Quand on a su qu'il était en Espagne, on était soulagé. D'après, bien sûr, Lucien Meyrat, un kamikaze, il a envoyé un télégramme en Espagne pour y donner rendez-vous à l'aéroport, je ne sais pas quoi, de Madrid. Et puis, quand il est à l'aéroport de Madrid, c'est la police espagnole qui l'ont ramassé, parce qu'il était recherché par Interpol. La Suisse avait tout de suite fait le nécessaire.
Marcel Boyat, il est revenu dans le Jura en 87, hein, quand il y a eu prescription. C'est à ce moment-là aussi que vous l'aviez revu, ou vous l'avez revu pendant sa période de clandestinité, entre guillemets, puisqu'il avait le statut de réfugié politique par l'Espagne. Vous l'aviez revu pendant ces années-là?
Ah oui, bien sûr, j'allais lui rendre visite en Espagne, à Daimiel, où il habitait. Non, on est allé plusieurs fois. Puis d'ailleurs, il y a des copains aussi du Jura, ici, qui allaient rendre visite. Non, il a eu beaucoup de visites. Il était au chaud là-bas. Franco a refusé son extradition. Hein. La Suisse en a ramassé un coup. Hein. Puis après, la Suisse en a ramassé un coup aussi avec Jean-Baptiste Hénin. Quand De Gaulle a dit, on n'extrade pas nos nationaux. Hein.
Jean-Baptiste Hénin, c'est le deuxième FLJ en quelque sorte. Mais quand Marcel Boyat est revenu ici dans le Jura en 87, vous vous souvenez d'un moment particulier, de sa réaction à lui, de votre réaction à vous?
C'était une très belle fête. D'abord, il y a eu un monde fou à la fête du peuple. Il était sur un char, il a défilé, il a fait un discours sur la tribune. Il a été quelques jours là, il est venu dîner chez moi, il a été chez d'autres copains. Non, c'était une semaine extraordinaire. Il avait son épouse avec, sa nièce. C'était une très belle fête.
Il avait été aussi reçu hein, par Roland Béglin. Chez lui, si ma mémoire est bonne, ça avait fait grincer beaucoup, beaucoup de dents hein, en Suisse. Ça vous gênait pas? Au contraire, c'était, pour vous, c'était du pain béni.
Mais bien sûr, non, ça ne gênait pas du tout. Parce que finalement, qu'est-ce qui a fait que le problème jurassien s'est décanté? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de place d'armes? L'abandon de place d'armes au Franche-Comté, c'est le FLJ. C'est triste, c'est malheureux. Il a fallu la violence pour réveiller la Suisse. Et là, Paul Chaudet, qui avait été chahuté aux rangées, le Conseil fédéral avait dit, en parlant des rangées, il ne faut pas faire le procès des rangées. Mais c'est aussi lui qui a dit maintenant, il faut abandonner ce projet de place d'armes aux Franche-Montagne. Grâce à qui? Au FLJ. C'est triste, mais c'est comme ça.
Mais les actions en elles-mêmes du FLJ, des fermes incendiées, une ligne de chemin de fer à Studen qui avait été dynamitée, il y aurait pu y avoir des morts, des victimes. Ça, quelque part, cet aspect-là, il ne vous dérangeait pas?
Il a été prouvé qu'il n'a jamais voulu faire sauter un train. Il a mis une petite charge contre un pylône, c'était pour avertir, simplement, c'était à l'époque l'exposition nationale. Il n'a jamais voulu faire dérailler un train. D'ailleurs, les enquêteurs l'ont prouvé. Et pour preuve, avec tous les actes qu'ils ont commis, les fermes brûlées, les forts militaires, pétés au plastique, incendiés, le délit politique pour la première fois en Suisse, sans trop le dire, a été reconnu par le tribunal fédéral. Ils ont reconnu que ce n'étaient pas des personnes de droit commun, c'est un délit politique. Et la preuve, avec tous les attentats qu'ils ont faits, ils n'ont écopé que 6 ans pour Joseph, puis 7 ans pour Marcel Boyat. Et c'est la preuve que c'était le délit politique a été reconnu. Le procès du FLJ à Lausanne, ce n'était pas le procès du FLJ, c'était le procès de la Confédération et puis du canton de Berne. La Confédération contre ce funeste projet de place d'armes en Franche-Montagne et le canton de Berne pour son attitude méprisante dans le problème jurassien.
Cette affaire du FLJ, quand il y a eu cette période d'attentat, bah, un peu toute la police hein, bernoise était sur les dents, voulait à tout prix arrêter ce mystérieux groupe du Front de Libération Jurassien. Et puis, il y a eu cette affaire qu'on a appelée des innocents de Courfèvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
C'est un énorme scandale. C'est un scandale de la justice bernoise. Ils ont arrêté des innocents pour faire marcher les vrais. Et ils ont réussi. C'est honteux. Ils ont enfermé une femme qui n'était pour rien, pour une histoire de café noir au lieu de café et crème. Ils ont dit que c'était un faux témoignage. C'est une honte, c'est un scandale. C'était rageant, c'était révoltant. Mais ça a marché. Et les vrais, Marcel Boyat me disait, je n'ai pas pu supporter qu'une femme paye en prison à cause de moi. Et ils ont continué leur action et c'est là qu'ils se sont fait prendre.
Oui, parce qu'alors, cette dame en question, c'était Madame Tandon, leur avait reproché d'avoir éventuellement des liens avec le FLJ, ce qui était faux. Et puis, un témoignage autour de café après un IAS qui avait été avec des amis. Vous aviez aussi manifesté à Berne pour ceux qu'on a appelés les innocents de Courfèvre.
Ah ben oui, il y a organisé une manifestation à Berne. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. À manifester devant le tribunal de Berne pour libérer cette dame. Mais là aussi, on aurait pu. Là aussi, ils nous ont poussé à bout. Là aussi, on aurait pu craquer puis tomber dans la violence. Mais on ne l'a pas fait. Ce n'était pas la politique du groupe Bélier. La politique du groupe Bélier, c'était répondre par la non-violence et surtout par l'humour.
Des actions du Bélier, vous en avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est impossible de toutes les énumérer, mais il y a peut-être. Et vous n'avez jamais été finalement arrêté ou pris dans le panier à salade, mais je crois qu'il y a eu une fois quand même où vous avez dû un peu prendre la fuite de manière précipitée.
Oui, une manifestation à Berne, je ne sais plus laquelle, il y en a eu tellement, que là on s'est fait charger par les grenadiers, et puis nous on a pu se sauver, ils nous ont couru après, on a pu s'isoler dans un coin, on marchait tranquillement, tout d'un coup il y en a deux gorilles là qui disent « Oh yeah !» On a sauté un mur et on s'est enfilé dans un garage souterrain. Ils nous ont pas appris.
Une autre anecdote, parce que vous avez participé aussi à une autre opération marquante, c'est l'opération Macadam, goudronner les rails du tram en ville de Berne pour protester contre l'état des routes dans le Jura. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là?
On a préparé les bidons de Macadam, c'était des bidons de 20 kilos, dans une maison à côté de la mienne. Et on a chargé ces bidons dans deux bus VV. On s'est rendu à Berne, c'était organisé. Le chauffeur, on allait en plein centre de Berne où il y allait les trams, le chauffeur restait au volant et une équipe était chargée de vider ses bus, sortir ses bidons et le chauffeur partait immédiatement. Voilà, un des bus a pu partir, le deuxième bus, il tourne la clé, plus un P. Qu'est-ce qui se passe? Comme le chauffeur avait été mécanicien sur auto, il sort, il lève le capot du moteur, c'est un bus VV, il sort un de ses puissants noms de Dieu, il nous a volé le Guelco. Plus d'électricité, plus de courant, le bus il est resté là, fini, terminé.
Ce Delco, il n'avait probablement pas été volé par n'importe qui.
Non, on s'est fait piéger comme des gamins. On s'est fait piéger par un barbouze en civil qui, pendant que nous on était affairés à vider nos bidons de goudron, lui tranquillement, il a levé le capot, puis il a volé le Guelco. Alors que voilà, on a appris quelque chose. Quand on fait une opération comme ça, on doit nommer 4 personnes à chaque coin du bus pour surveiller le bus. Puis quand il est vide, tout le monde s'en va. On l'a pas fait. On a appris quelque chose.
Probablement, à vous entendre, donc un policier bernois en civil qui aurait volé ce Delco. Une autre opération à laquelle vous n'avez pas participé directement, mais indirectement, c'est quand le groupe Bélier avait muré les entrées du Rathaus en 1971. Vous n'avez pas, vous, muré le Rathaus, mais c'est grâce à votre matériel.
Oui, je construisais ma maison, donc c'était pas difficile. On a fait venir du béton chez moi, on a rempli les seuils, et puis toute l'équipe, ils sont partis. Moi, j'ai pas pu aller avec, mais je suis content, le béton est parti de chez moi.
C'est le béton de votre maison qui a muré le Rathaus.
On peut le dire, on a mis du retardé dedans pour qu'il sèche pas trop vite. C'était bien réussi.